Radio. Campus. Paris.
Bonjour, nous sommes le mardi 29 septembre, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris et à 18h un mardi sur deux, désormais, c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
C'est déjà, et oui, qui l'aurait parié, la cinquième saison de La Relève. À quelques changements près, La Relève continue d'ouvrir son micro un mardi sur deux à 18h à de jeunes talents venus de tous les horizons. Pour ce retour, j'accueille l'écrivain Marius Geoffrey dont le premier roman, Le Fumoir, vient d'être publié aux éditions Anne Carrière. Bonjour Marius Geoffrey.
Bonjour.
Comment avez-vous vécu le confinement ?
J'ai très mal vécu le confinement.
Ça fait écho à votre livre, c'est pour ça que je vous pose cette question-là, c'est pas innocent.
Ça fait écho à mon livre, alors c'est-à-dire que pendant le confinement, moi je me suis dit, bon bah je vais en profiter pour écrire, je vais en profiter pour lire, je vais en profiter pour créer, pour faire des choses, peu importe quoi. Mais ça n'a pas été le cas. J'étais très désœuvré pendant le confinement et c'est une période qui ne m'a pas plu du tout. Moi, j'ai pas tellement envie de donner mon avis sur tout ce qui se passe en ce moment parce que moi j'ai juste cette phrase et je n'en mets pas davantage. Je pense qu'il faut prendre le risque de la liberté. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus.
C'est votre avis. Je vous posais donc cette question parce que votre livre raconte l'histoire d'un confinement, un autre confinement oui. qui est lié. Un soir, vous êtes en état d'ébriété, votre frère croit bien faire, et il vous emmène aux urgences à l'hôpital Sainte-Anne. Et là, il vous arrive un autre confinement que vous racontez dans ce livre.
Oui, effectivement. Tout est basé d'ailleurs sur un... C'est très grave, c'est-à-dire que c'est les deux médecins psychiatres de l'hôpital Sainte-Anne, aux urgences de Sainte-Anne, qui m'ont inventé une maladie, la maladie de Korsakoff, qui est une maladie qui arrive en général à l'âge de 62 ans et encore. Gainsbourg et d'autres, Johnny Hallyday, etc. Et consorts n'en étaient pas atteint. Donc c'est un mensonge qui a été d'ailleurs validé par le fait que le dossier, ce nom n'apparaît pas. Et le psychiatre qui ensuite était à l'hôpital Henri Hé, où j'ai été interné, c'est un endroit d'incarcération. Ça. Je ne devrais pas utiliser le terme hôpital, ce serait une insulte. À tous les soignants qui ont sauvé des vies et je voudrais
on va juste peut-être expliquer comment vous passez de l'un à l'autre. C'est qu'en fait vous arrivez à l'hôpital, il y a un diagnostic qui est fait, votre frère signe une décharge sans trop savoir, je crois, ou en tout cas il est influencé au moment où il signe, et donc vous vous retrouvez dans la situation des gens qui sont internés à la demande d'un tiers.
Exactement. Alors, c'est-à-dire que mon frère, donc la demande d'un tiers, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que un tiers, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui dans la rue, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue. Vous avez une engueulade, vous hurlez. Je déconseille aux gens qui sont d'humeur orageuse d'appeler SOS Psychiatrie parce que on risque de les envoyer en tôle. Je le dis comme ça. Ça s'est passé très, très simplement. Mon frère a signé, mais moi j'aurais fait pareil à sa place, parce que quand on vous explique que votre frère ou votre fils ou votre fille va devenir un légume parce qu'elle a contracté le syndrome de Korsakoff, comment vous pouvez faire autrement? À moins d'être un salaud. Vous faites confiance à la psychiatrie, vous faites confiance à Sainte-Anne, vous faites confiance aux médecins.
Et donc, quand vous arrivez là-bas, en fait, vous comprenez que vous n'allez pas pouvoir sortir, que vous n'êtes plus dans l'état de droit normal, finalement.
Exactement. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis là-bas, je le sens et ça se voit dans leurs yeux. Je sais que quand ils me disent un jour, deux jours, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps avec des gens qui n'ont pas de très gros problèmes, etc. Je sais que ce n'est pas vrai et j'en veux pour preuve que quand j'arrive aux urgences de Sainte-Anne, je suis le seul. Il n'y a pas d'autres patients. Je suis le seul patient. Le seul patient aux urgences de Sainte-Anne. Et donc, on me pose parfois cette question, je ne sais pas si vous aviez traversé l'esprit, mais pourquoi ils font ça? Eh ben, je pense que c'est pour remplir les services qui sont vides.
Pourquoi vous... Alors, moi, j'avais une autre question plutôt. Oui. C'est pourquoi avoir écrit sur ce sujet-là ? J'ai lu dans une interview que vous disiez que vous aviez envie d'écrire depuis longtemps et vous avez été réécrire sur cet épisode que j'imagine traumatisant, violent en tout cas, à vivre, même si c'est 20 jours. C'est 20 jours terribles.
Oui.
Qu'est-ce qu'on... Le revivre, ça apporte quoi ? Ça donne de la distance, ça permet de s'en extraire ?
Alors, j'ai parfois dit que ce livre me protégeait, ce qui n'est pas totalement vrai. En réalité, le fait je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas sortir un livre, un premier livre autre que celui-là. Je le devais, je me suis battu corps et âme pour sortir ce livre. Je le devais et je le dois à ces gens qui, en ce moment, ne peuvent pas écouter Campus Radio, par exemple, parce qu'ils sont enfermés, ils sont dans leur chambre, ils sont privés de tous leurs droits, alors que ce sont des innocents, ils n'ont rien fait. Et c'est dans le 13e arrondissement, on peut y aller en métro, c'est à côté, c'est pas des problèmes qui sont difficiles à régler. Et moi, ça, je suis totalement révolté par cela. Donc, si vous voulez, moi, ce livre, je le dois à ces gens-là. Je leur dois quelque part, je leur dois la vérité parce que eux, ils ont été comme moi face à une psychiatrie dévoyée et eux, on leur donnera jamais la parole. Moi, j'ai la chance d'avoir la parole et donc j'en profite et j'en profiterai au maximum.
Vous dites d'ailleurs que vous arrivez à sortir parce que vous avez une famille, alors que là-bas, il y a des gens qui sont seuls. Enfin, je ne sais pas si on peut dire abandonnés, mais en tout cas, des gens que plus personne vient voir et qui sont un peu là et on ne sait pas jusqu'à quand. C'est relativement terrible, ça.
Évidemment. Alors, une personne qui m'a énormément touché, qui est un orphelin, et quand je suis sorti, il m'a dit « Tu as tellement de chance, tu vas pouvoir sortir parce que toi, tu as des parents. »
Et ces gens-là, vous avez pu nouer des liens avec eux ? Vous pouvez encore avoir... Enfin, je ne sais pas, leur écrire hein, vous...
Je reçois beaucoup de témoignages sur Facebook.
Des
gens qui sont passés par l'asile. Je ne parle pas d'hôpital, évidemment, par l'asile. J'ai beaucoup de témoignages de soutien des gens qui sont à 500% d'accord avec moi. Et si je peux me permettre le jeu de mots, c'est un silence radio au niveau des psychiatres.
Oui, voilà. parce que le livre commence par donc votre livre, Le Fumeur mort chez Anne Carrère, commence par ce rappel. Chaque année, 100 000 personnes sont internées en France, mais elles ne sont pas toutes internées dans ces conditions-là. C'est tous les internements quand on dit 100 000, non ?
Non, 100 000, ce sont les internements à la demande d'un tiers. C'est-à-dire, ce sont les internements à la demande de quelqu'un qui n'est pas médecin. Si on compte les internements à la demande d'un juge, qui parfois sont des internements pour pas grand-chose, comme dans le cas de cette femme qui a été harcelée sexuellement par son supérieur, qui travaille chez un opérateur téléphonique, et si vous voulez qui lui met une gifle et qui se retrouve interné par cet opérateur téléphonique en hôpital psychiatrique, ça c'est un internement à la demande d'un juge, ce qui est quand même assez étrange, je trouve, sachant que la personne qui devrait se retrouver pas internée mais en garde à vue tout simplement, c'est la personne qui l'a harcelée sexuellement et pas la personne qui a donné la gifle.
Ce qui frappe quand on lit votre livre, je ne sais pas si c'est un effet de style que vous avez voulu rendre ou si c'est la réalité, c'est qu'on a l'impression que la pire des punitions, outre l'enfermement, qui est quand même la première chose horrible, enfin je ne sais pas comment dire, la punition, la première peine que doivent supporter tous ces gens, c'est l'inactivité. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais on ne leur donne rien à faire.
Il n'y a absolument rien à faire. J'aimerais tellement vous dire mais qu'il y a par exemple des livres, il n'y a rien, rien.
Sauf
rien.
Le fumoir.
Fumer le fumoir. Alors, comme je dis un peu de manière humoristique, c'est vrai que on est très en accord avec la nature, si vous voulez, dans cet endroit, parce qu'on est en pyjama, on est obligé d'être en pyjama comme d'autres sont en pyjama orange dans les prisons américaines. Et là, on est en pyjama bleu. Et dans le fumoir, alors, on a toutes les saisons. Alors, quand il y a du soleil, on a chaud, quand il pleut, eh ben, on dégouline. C'est vraiment à ce niveau-là, voilà quoi. On est en accord avec le temps, mais le temps est très long, surtout quand on dort pas.
La relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec l'écrivain Marius Geoffrey pour son premier roman. Enfin, premier roman. Est-ce que c'est un roman d'abord ?
C'est un roman de non-fiction dont le personnage principal est moi-même, Marius Geoffrey. D'ailleurs, c'est écrit dans le cœur du livre. Je n'ai pas voulu prendre de pseudo. Ça aurait été une insulte supplémentaire pour ces gens-là. Je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt.
Vous avez travaillé pour retirer au livre le côté sordide qu'il pourrait avoir. Il est terrible, il y a une violence qui est très contenue, contrairement à quand on vous voit et quand on vous entend. Le livre est beaucoup plus doux d'une certaine façon. Vous l'avez travaillé, cette douceur ?
Oui, c'est-à-dire que c'est pas tellement que je l'ai travaillé, c'est que, en réalité, moi maintenant, j'ai envie de dire la vérité. Et vous aurez sûrement noté qu'il y a un infirmier qui est très sympathique dans ce livre.
Ouais.
C'est totalement de la fiction.
Il n'existe pas ?
Malheureusement,
il
non.
Il n'existe pas, je ne sais plus. Il ne s'appelle pas Damien, mais c'est un nom.
Il s'appelle Damien.
Si, il s'appelle Damien, c'est ça ?
Il s'appelle Damien, mais il n'a jamais existé.
Donc
j'ai voulu sauver quelqu'un. J'ai voulu sauver quelqu'un. Et je vous dis quelque chose. Je suis invité, par exemple, par le grand professeur de psychiatrie qui dirige le service psychiatrique de l'hôpital Bichat. Je suis invité le premier à une réunion de travail. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que je me dis... Pour donner un peu d'espoir, je me dis peut-être que ça servira peut-être pour 3 patients, pour 4 patients. Peut-être que mon livre aura servi à quelque chose. Et c'est très rare parce qu'en général, la littérature ne peut pas grand-chose. Et si là, la littérature peut, même un tout petit peu, mais ce sera pour moi gigantesque. Moi, je pense aux gens qui en ce moment sont privés de leur mouvement et sont dans le 13e arrondissement en ce moment. Quand on se parle et qu'ils ne peuvent pas nous écouter.
Vous pouvez repasser devant cet endroit ?
Je suis déjà repassé, oui.
Et vous ressentez, je sais pas, physiquement, vous ressentez quelque chose ?
Je pense que c'est un endroit, l'hôpital Henriet, je pense que c'est un hôpital qui devrait être démantelé d'urgence. Et je pense qu'on a un très très bon ministre de la Justice, c'est peut-être un des seuls ministres qui est bon en ce moment, qui s'appelle Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, et je pense qu'il pourrait peut-être faire quelque chose.
Vous avez demandé à le rencontrer ?
Non, mais je l'ai déjà rencontré dans un fumoir, figurez-vous. Il m'a demandé du feu, mais c'était lors d'une avant-première.
Ah, mais il n'était pas encore ministre.
Il n'était pas ministre. Et donc j'ai rencontré Monsieur Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice et garde des Sceaux, dans un fumoir. Donc voilà, ça c'est le. Je vous donne le petit scoop.
Page 118 de votre livre. Je vais faire un peu de lecture. Je vois le temps qui passe. On va terminer avec ça.
Oui.
Vous expliquez que vous parlez avec votre psychiatre et vous inventez la vie, le futur qu'il veut entendre, et vous écrivez des pattes, une femme, un petit boulot, un bonheur restreint pourvu qu'il soit sobre comme les murs de l'asile. Pas de lèvres, place des Vosges, ni de construction mentale extravagante, pas de rêve, une vie petite. La vie simple d'un patient qu'il pourra certifier conforme comme un douanier le fait avec un conteneur de marchandises à son entrée sur le territoire. Je trouve ça terrible. Alors j'aimerais savoir si vous avez échappé à cette petite vie que vous avez dû inventer pour pouvoir sortir.
Je pense avoir échappé à cette petite vie. Les psychiatres rêvent leur vie grande. Ils veulent faire de la recherche. Vous savez, par tout ce qui se passe avec le Covid, que l'obsession des professionnels de santé et des professeurs, c'est les publications. Ils se battent là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus. Si vous voulez, oui... j'espère avoir échappé à cette petite vie, et j'ai de toute façon refusé, quitte à être plus triste que d'ordinaire, j'ai refusé toute la médication qui me rendrait à l'état d'une larve, et je ne veux pas de ça. Je préfère garder ma dignité. Je le dois à tous ces gens qui sont enfermés à tort et qui sont des innocents.
Merci encore Marius Geoffrey, pardon. Votre livre s'appelle Le Fumoir, il est publié aux éditions Anne Carrière.
Merci.
Voilà, c'était La Relève, c'est déjà terminé, c'est plus court cette année. Elle était préparée et présentée par Christophe, elle était réalisée par l'indispensable Antonin. Toutes les informations nécessaires sont sur le site internet de Radio Campus Paris. À dans 15 jours. Merci.
Radio Campus Paris.